Locaux présente ses podcasts en ligne.
Beaucoup se souviennent de ce couple de sociologues étudiant les châtelains à la fin des années 90. D'autres se rappellent du livre « La violence des riches », un constat sans appel sur la puissance dominante des plus grandes fortunes, sur la société, sur les hommes. Monique et Michel Pinson-Charlot sont les sociologues les plus médiatisés de ces dernières années. Leur combat poursuivre le travail sur la lutte des classes à l'heure d'un capitalisme boursouflé. Mais depuis le 8 mars 2022, on découvre au cinéma, à travers un documentaire, le couple dans leur intimité, leur quotidien, leur tendresse, leur amour. Ces deux universitaires se livrent durant presque un quinquennat, celui d'Emmanuel Macron, et devant la caméra d'un homme, Basile Carré-Agostini. Le film s'appelle « À demain mon amour ». Pour l'occasion, j'ai rencontré Monique Pinson-Charlot. Monique Pinson-Charlot, À demain mon amour, c'est un film où la caméra vient complètement prendre place dans votre quotidien, dans votre intimité, dans l'histoire de votre couple pendant ces dernières années. On vous suit, on prend du plaisir à voir votre vie, votre tendresse pour l'un et pour l'autre. Comment ce projet, au fond, qui s'écarte un peu de ce que vous avez pu faire, est arrivé jusqu'à vous ?
D'abord une productrice, Amélie Juan, avec laquelle j'avais déjà travaillé avec Michel pour plusieurs films, avec le réalisateur Antoine Roux, des films pour la télévision, Le bonheur des riches, je ne me souviens plus de tout ce qu'on a fait ensemble, La chasse à cour, enfin on a fait plusieurs films. Et voilà, et puis il y a eu un problème, il avait un autre travail à faire, enfin bref, on était en panne de réalisateur. Donc elle nous a proposé Basile, et avec Basile, le projet qu'on avait au départ, c'était un film sur les lanceurs d'alerte, sachant qu'on avait déjà travaillé pas mal avec Antoine Deltour, avec Hervé Falcani, pour nos ouvrages sur la fraude fiscale des plus riches. Et on a montré ce qu'on avait pu écrire avec le réalisateur précédent sur le sujet, puis ça l'a pas trop branché, il a trouvé que ça ne pouvait pas donner quelque chose de bien intéressant à l'image, que c'était intéressant à lire, mais pas forcément à l'image. Et puis il nous a dit, moi je ne sais pas, j'ai envie de vous suivre, vous m'intéressez, donc on va voir si on peut faire quelque chose ensemble. Et puis au bout d'un mois, il a dit, finalement les vrais lanceurs d'alerte, c'est vous. Et donc c'est votre couple qui m'intéresse, la façon dont vous vivez, la façon dont vous travaillez, dont vous faites de la sociologie, dont vous vous engagez à travers la transmission de votre travail auprès de populations soit pauvres, soit moyennes, soit jeunes, auprès de publics très, très différents. Et ça s'est fait comme ça, on a dit banco.
Oui, au fond, Monique et Michel, c'est deux personnages qu'on connaît très bien médiatiquement, puisque iconiquement, visuellement, on sait que vous êtes un couple de chercheurs en sociologie, que votre combat, c'est le capitalisme, c'est les grandes fortunes. On a vu beaucoup de documentaires à la télévision sur vous, et là, on vous retrouve dans un registre vraiment à part, celui de l'intimité de votre couple, quoi. Comment les Pinson-Charlot vivent au quotidien. Qu'est-ce qui fait leur quotidien, justement? Et ça, c'est nouveau dans l'approche de votre travail.
Ah, complètement. C'est la première fois. Parce qu'on s'était présenté en couple de travail avec Jean-Christophe Rosé, Voyage dans les ghettos du Gotha, qui avait été diffusé sur France 3. Mais là, c'était non, c'est vraiment... Ils voulaient tricoter trois formes d'engagement, amoureux, sociologique et politique. Et on s'est dit, mais c'est intéressant qu'on nous propose ça. Surtout qu'on est plutôt en fin de vie, hein, on est âgé. Et donc c'est intéressant parce que les histoires d'amour sont très souvent absentes des débats politiques, de la vie politique. Hein. La politique, c'est souvent des hommes en costume cravate et c'est jamais, y a jamais une histoire d'amour. Il peut y en avoir, mais je veux dire qu'ils sont exceptionnels, qu'ils ne sont pas au centre. Tandis que là, c'était notre couple qui allait être au centre. Et ben voilà, puis au final, ben, nous on trouve que le résultat nous convient très bien. Il est cohérent par rapport à ce qu'on se représente de nous deux, ce couple déséquilibré, deux boiteux mais pas de la même jambe, deux névroses de classe inversée. Et puis ben, ça fonctionne, et tant mieux.
Ça fonctionne très bien et justement, on voit que votre amour est quand même très lié à votre combat et que toutes ces années, vous avez tenté de décrire, d'analyser, d'observer la bourgeoisie, les grandes fortunes. Au fond, aujourd'hui, là, en 2022, je me demandais comment Monique Pinson-Charlot, elle définirait le mot riche.
Il n'y a pas vraiment de définition des riches, parce que vous voyez, curieusement, il n'y a pas de seuil de définition au-delà duquel on est riche ou pas. Il y a un seuil de pauvreté, mais le seuil de richesse n'existe pas, et ce pour deux raisons. La première, c'est que dans la grande richesse, il y a une immense dispersion. Alors je vous donne un exemple qui permet de comprendre ce que je veux dire. Le dernier classement de Challenge, c'est la première fortune de France, c'est Bernard Arnault, cette année avec 130 milliards d'euros. Et la 500e, je me souviens plus, c'est un pâtissier, on va dire que c'est la durée, mais je ne suis pas sûre de moi. Et dans la fortune de Bernard Arnault, vous avez 870 fois celle du pâtissier, 500e. Et il est considéré, c'est le palmarès des riches, des 500 premières grandes fortunes. Une dispersion de 870 fois, ça n'existe pas dans le monde des salaires, dans le monde des revenus du peuple, enfin des, voilà, le monde du salarié, on va dire. Et puis, la seconde raison, elle est essentielle aussi. Donc la première raison, la grande dispersion, pourquoi il n'y a pas de seuil de richesse, possiblement définissable. Et la seconde, c'est parce que en réalité, la richesse n'est jamais qu'économique. La vraie richesse, elle est toujours entremêlée de richesse économique, c'est la condition nécessaire mais pas suffisante. Il faut toujours qu'il y ait de la richesse culturelle. Le monde des grandes fortunes, c'est le monde des collectionneurs d'art, des propriétaires de sociétés de vente aux enchères, le monde des grandes écoles, enfin, etc. La richesse sociale, on ne peut pas rester longtemps riche tout seul, il faut avoir un portefeuille de liaisons, de relations sociales au top de la richesse, donc être copain avec tous les autres riches, faire partie de cercles, de rallyes pour les enfants. Et enfin, la richesse symbolique, c'est-à-dire cette richesse qui fait que quand vous êtes en haut de la société, même votre corps est différent de ceux des classes moyennes et classes populaires, parce qu'il y a cette volonté de marquer son excellence, de marquer sa supériorité, à travers ces quatre formes de richesse qui n'ont pas été inventées par nous, mais par Pierre Bourdieu. Et donc, on ne peut pas classer ça, voilà.
Alors, le mot bourgeois, vous n'en faites pas vôtre, vous êtes plutôt, avec Michel, dans une observation du capital et des capitalistes. C'est vraiment ça qui alimente votre réflexion intellectuelle.
Oui, nous, c'est vraiment, je dirais, nous, c'est vraiment les capitalistes, ce qu'on a pris dès le départ, qu'on a voulu soumettre à l'investigation sociologique dans le cadre de notre statut de chercheur au CNRS, parce que c'était vraiment ce qu'on voulait faire, c'était vraiment une théorie de l'exploitation et de la domination. La théorie existe déjà avec Marx. Elle a été poursuivie pour la domination de manière très savante et superbe avec Pierre Bourdieu. Et nous, notre projet était tout à fait humble et sans prétention. On voulait simplement, en articulant ces deux systèmes théoriques, aller faire des enquêtes nous-mêmes avec nos petits talons et nos mocassins à Neuilly, dans le 7e, le 16e, puis en province, dans différents endroits, au plus près des familles d'aujourd'hui, montrer comment ça fonctionne aujourd'hui, avec un capitalisme qui a beaucoup évolué par rapport aux 200 familles au moment du Front populaire. Voilà, ça a été ça, un projet tout simple, mettre en œuvre un système théorique et le faire vivre auprès d'une population précise.
Alors cette population précise, c'est les riches, hein, les grands capitalistes, les grandes fortunes. Mais au fond, Comment on arrive à les trouver, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce que vous, en tant que chercheur, vous avez eu la facilité de pouvoir les observer de très près?
Mais le problème de l'accessibilité, c'est aussi le problème de qui sont les chercheurs qui vont oser aller en haut de la société et qui est la masse des chercheurs qui baissent toujours la tête pour aller toujours vers les plus pauvres. C'est-à-dire, je pense que le sujet, quand on est sociologue, de travailler sur les puissants, c'est un sujet qui est un peu en contradiction avec la tradition sociologique. La sociologie s'est construite autour de l'action sociale, autour de répondre au dysfonctionnement du système capitaliste, notamment dans le logement, dans la culture, pour apporter des solutions pour les plus pauvres. Nous, c'était l'époque où le commissariat général du plan planifiait encore beaucoup la société française. Il y avait un état-providence extrêmement fort. Et donc, la sociologie s'inscrivait dans cette logique de la défense de l'intérêt général. Et donc, massivement, honnêtement, les sociologues ont travaillé sur les plus démunis. Et ils y ont trouvé un espèce de confort, puisque quand vous avez le statut de chercheur au CNRS, vous vous dites, ouais, c'est quand même un chouette statut, on est très privilégié, on a la garantie à vie de son emploi, et on est payé pour faire de la recherche. Que demande le peuple ? Hein ? Et c'est d'ailleurs pourquoi ce film nous plaît, parce qu'on voit qu'on ne travaille pas. On est heureux, tout simplement, de faire ce qu'on fait. Et c'est une chance.
Comment on fait pour mener une carrière à deux, en couple, en partageant le boulot et le quotidien ?
Je dirais que notre satisfaction à plusieurs étages, je dirais que d'abord c'est la joie d'avoir partagé. Le partage avec Michel a été essentiel à ce bonheur et au travail lui-même qui n'aurait pas existé si Michel n'avait pas été là, si Monique n'avait pas été là. Donc c'est... Ensuite, je dirais que on a vécu des choses absolument extraordinaires que nous racontons justement dans nos mémoires, où on montre que en fait on n'avait pas un programme de travail qui était parfaitement construit, qui était carré, bien voilà. Non, on s'est laissé porter par les opportunités. Une banque d'affaires nous propose un travail formidable sur les nouveaux patrons, hop, on signe. On a la possibilité de faire un travail avec la DGI, la Direction Générale des Impôts, grâce à Laurent Fabius, travailler sur les 100 plus riches de l'ISF. Ben, évidemment, on lâche tout et puis on fait ce travail. On a travaillé un petit peu comme ça, l'occasion de travailler sur la chasse à cours. On s'est saisi comme ça d'un peu tout ce qui se présentait. Et finalement, on était, comme deux gosses qui tapent dans les flaques d'eau et qui sont trop contents de taper dans la flaque d'eau. On était contents tous les deux de ce qui nous arrivait, des surprises, de l'enquête, hein, de ces recherches. Et puis, le troisième étage, je dirais que de notre satisfaction, c'est la transmission. Parce que ça, c'était très important pour nous de transmettre, parce que Michel était d'une origine ouvrière extrêmement pauvre, enfin très 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 modeste, et il y avait quelque chose chez lui qui, avec le travail qu'il avait fait sur les ouvriers ardennais, là se retrouver avec moi chez les familles les plus riches, il avait besoin de s'en sortir par le haut, mais tout en sortant sa famille avec lui. Parce qu'il était un transfuge de classe et du coup, ça lui permettait de retrouver l'affection, enfin, je sais pas, quelque chose, une complicité avec son propre milieu d'origine. Voilà. Et sachez, ça sera la conclusion par rapport à cette question qui est importante, que la notoriété, quand elle est partagée, c'est génial. Ça ne fait pas de dégâts.
Dans le film, il y a un extrait très fort avec vous, Monique et Michel, face à un économiste, un ami économiste. Vous essayez de comprendre une actualité sur les revenus. Et en fait, on se rend compte à travers cet extrait que l'univers du capitalisme, son vocabulaire, ses chiffres, ses pourcentages, c'est très compliqué de comprendre tout ça et que ça participe à la violence aussi des dominants face aux dominés.
Ah oui, c'est ça, c'est une vraie violence. Hein. Le côté hermétique du fonctionnement du capitalisme, la façon dont tout est opacifié, tout est masqué, tout est caché, puisque finalement, le capitalisme, c'est quoi ? Ce sont des gens qui détiennent les titres de propriété. Et parce que le droit leur donne ce droit d'exploiter toutes les formes du vivant, que ce soit les êtres humains, les animaux et la nature, on le voit très bien maintenant aujourd'hui à l'heure du dérèglement climatique, eh bien cet arbitraire-là absolu, vous naissez à Neuilly, vous naissez avec des titres de propriété dans la bouche, vous naissez à Bobigny, vous n'héritez que d'épines et de problèmes pour votre vie. Donc c'est un arbitraire total qui doit être masqué, qui doit toujours être transformé sous forme de récits multiples, angéliques, de construction, de l'excellence, du mérite, de la supériorité, hein, tout simplement. Les premiers de cordée, hein, celui qui est allé le plus loin dans la construction de ce mépris de classe, c'est certainement Emmanuel Macron.
Mais ce serait quoi justement ces violences, ce mépris de classe des riches face aux plus pauvres ?
Je dirais que c'est une violence tous azimuts, c'est-à-dire que rien n'échappe plus à la violence des riches, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ce qui relevait du bien commun, comme l'éducation et surtout la santé. On l'a vu avec la crise sanitaire, à quel point l'hôpital public a été mis à mal, à quel point l'école a été mis à mal, à quel point le climat a été mis à mal, à quel point l'ensemble sur les trucs agricoles, avec les insecticides qui sont toujours autorisés, quel que soit le domaine de l'activité économique et sociale sur lequel vous vous penchez, vous voyez que la violence du capitalisme s'est accrue de façon considérable. Et c'est d'ailleurs une des originalités de notre travail. On a commencé à travailler en 1986 sur cette classe sociale, à un moment où c'était encore un peu, disons, du capitalisme industriel et familial, à aujourd'hui, où c'est un capitalisme financiarisé, spéculatif et surtout qui marchandise absolument tout, la moindre petite herbe au fin fond de l'Inde, a vocation à produire des dividendes pour les actionnaires. Aujourd'hui, ils sont en train de se partager les océans en air, enfin, les terres agricoles sont achetées par les plus riches, dans un séparatisme. Le séparatisme des riches, ça sera un sacré beau sujet.
Mais dénoncer tout ça, le décrire avec votre appareillage scientifique universitaire, est-ce que ça n'a pas fait peur à d'autres personnes ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de violence aussi contre vous ? Parce que ce que vous amenez, c'est très fort.
Ah ben oui, c'est-à-dire, mais là, ça s'est passé à partir de notre retraite en 2007, quand on a quitté tous les deux le CNRS, et qu'on a décidé, ce qui n'était pas possible, parce qu'on avait quand même un devoir de réserve en tant que chercheur au CNRS, donc on n'avait pas intégré ni le champ politique, ni le champ économique dans l'analyse de cette classe sociale. Donc c'est ce qu'on a fait tout de suite avec le président des riches, donc sous Nicolas Sarkozy. Et là, oui, non, à partir de là, ça a commencé à... On a eu un succès populaire immense. Mais après, ça s'est dégradé. Et alors avec... pardon, je m'en étouffe parce que ça a été tellement dur. Quand on a sorti le président des ultra-riches pour Emmanuel Macron, alors là, ça s'est carrément très mal passé à la télévision, à la radio. Et là, vous devez le savoir, comment ça... J'ai été coupée, j'ai été censurée, j'ai été malmenée. Et du coup, et puis finalement, blacklistée.
Dernièrement, le documentaire Hold Up, dans lequel vous intervenez, a créé une énorme polémique, notamment par son caractère nauséeux, complètement complotiste. Vous avez été manipulé par la production, alors que vous expliquez que la domination capitaliste n'est pas le résultat d'un complot, mais bien d'une solidarité de classe construite par l'entre-soi, entre autres. Le film s'est servi de ses propos pour appuyer la thèse du complot. Bref, un épisode médiatique particulièrement violent et à charge contre vous s'en est suivi. Vous êtes en procès actuellement, justement contre les responsables de ce film. Comment vous vivez tout ça aujourd'hui? C'est encore très frais.
Non, ça a été. Enfin, pour moi, ça a été un enfer. Ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux. Mais si vous voulez, j'ai toujours, quand on est sociologue, on a heureusement cette chance de pouvoir toujours construire et déconstruire, et donc essayer d'analyser ce qui s'était passé et la responsabilité que j'avais dans cette histoire qui a été énorme, puisque je traversais une période personnelle extrêmement difficile et douloureuse, et je n'avais personne à qui parler. Et je reçois cette invitation. C'était une invitation très élogieuse sur notre travail et très prometteuse pour un entretien sur Bourdieu, Foucault, pour l'analyse de la crise sanitaire. Donc je me sentais à l'aise. On avait publié pas mal d'articles pendant le Covid-19 pour bien expliquer la cause, pour bien expliquer ce qui s'était passé. Donc j'y vais confiante. Je fais un entretien où je me sens en confiance. Et puis, c'est malheureusement, il était trop tard quand j'ai compris que j'aurais dû vérifier où j'allais. Donc ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur que j'ai faite, et ce n'était pas la première fois que je la faisais, j'ai employé le terme d'holocauste pour parler du dérèglement climatique et de ses conséquences pour la moitié la plus pauvre de l'humanité. Mais ce qui a été le plus compliqué, c'est que j'ai été victime donc, d'un montage truqué. Et le téléspectateur ne pouvait pas savoir que je parlais du dérèglement climatique et pas de la crise sanitaire. Voilà, donc deux grosses erreurs de ma part, et je m'en excuse encore aujourd'hui, parce que franchement, je regrette beaucoup, mais très instructive sur le fait que j'étais vraiment attendue au tournant. La moindre erreur peut attirer des foudres inimaginables et une souffrance inimaginable. Je n'avais que mes larmes pour pleurer et mon énergie pour me remettre au travail. Et du coup, j'ai profité de cette période pour écrire nos mémoires, Michel et moi, en me disant qu'au moins je sois honnête vis-à-vis de Michel, qui n'est pour rien dans cette histoire, et que je lui propose un texte pour nos mémoires qu'il a pu lire et co-signer avec moi.